À Rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce 16 avril, on peut célébrer un des saints les plus intéressants de l'histoire de l'Église, et surtout des temps récents. C'est un saint qui a été canonisé au siècle dernier, et c'est saint Benoît Labre. Saint Benoît Labre, pour lequel la foule entière a eu un sentiment d'admiration dès l'instant de sa mort. Ça s'est répandu à travers toute l'Europe, et pourtant, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui un itinérant, un clochard, un homme de rien du tout, quoi. Un pauvre homme. Mais quel homme! Et c'est là qu'on voit chez ces gens qui ont tout dédaigné et tout méprisé, qu'ils ont tout parfois. Et c'est eux qui nous donnent la leçon et qui nous montrent que finalement, pourquoi vivre si ce n'est pour Dieu? Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne, dans un sermon que donnait un bon ami à moi, le père Stan Rougier, il m'a envoyé ça, oh, il y a déjà une dizaine d'années, une homélie qu'il avait prononcée le 2 septembre 1984 à la messe du 22e dimanche du temps ordinaire, qui avait été célébrée à Hamet, dans le Pas-de-Calais. Hamet, c'est l'endroit où est né Benoît Labre. Alors évidemment qu'il avait bien parlé de Benoît Labre. Et il disait au début, qui est Benoît Labre? Et à cette question, la plupart de nos contemporains vont répondre, un maniaque de la pénitence. Et ils vont ajouter, il se complaisait dans la saleté, trouvait sa nourriture dans les poubelles, et surtout, il était couvert de poux. Et à chaque fois qu'on parle de Benoît Labre, on me parle de ses poux. Mais on ne s'attache qu'à ce qu'il avait sur la peau et non pas ce qu'il avait dans le cœur. Car ce qu'il avait dans le cœur, c'était la présence de Dieu de façon absolument formidable, au point qu'il éblouissait les prêtres auxquels il se confessait. Qui est donc ce Benoît Labre? S'il est célèbre par ses poux, si ce signe d'une pénitence qui poussait à l'extrême, qui ne lui a attiré de ses contemporains que dégoût et indifférence, eh bien, sa vie était toute centrée sur Dieu. Elle était transfigurée par une mort qui a soulevé les enthousiasmes d'une canonisation populaire. Je vous assure, il faut entendre parler de ça pour s'éblouir de ce que l'Église catholique peut être quand elle est soulevée par l'Esprit-Saint et quand elle ignore les têtes couronnées. Les gens de grand pouvoir, les gens qui se pensent meilleurs que les autres par leur culture, leur connaissance, leur richesse ou simplement leurs petites prétentions. Et l'Église catholique sait reconnaître, comme toute véritable Église chrétienne, elle sait reconnaître ceux qui ont vécu comme le Christ et même peut-être plus pauvrement que lui. Aujourd'hui encore, ce vagabond de Dieu continue de fasciner, par cette énigme incroyable d'une sainteté qui permet, en somme, de dire que les pauvres sont parfois de grands saints, que nous ignorons totalement. Chaque année, d'ailleurs, en septembre, la foule des pèlerins va à Hamet, ce village où il est né. Un petit bourg d'Artois, dans l'Artois. C'est dans l'ancien diocèse de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, comme on appelle aujourd'hui, c'est-à-dire dans le nord de la France, un peu vers la gauche sur la carte, pas tellement loin de la Bretagne, un peu au nord, là. Et la foule, bien, visite la maison où est né Benoît Labre. Il est né là le 26 mars 1748. Il s'appelait Benoît Joseph. Il était fils de Jean-Baptiste Labre, c'était un très bon père, qui est mort en 1791, et sa mère était Anne Grandère. Elle est morte en 1804. Ses parents sont morts après lui, et ses parents ont eu la surprise de voir arriver chez eux à Hamet, qui étaient des gens très simples, lui un paysan qui avait quelques hectares, elle une petite mercerie. Ils ont vu la foule des gens venir leur dire que leur fils était un saint. Car le procès de canonisation a été entrepris en dedans de quelques semaines, tellement sa réputation de sainteté était immense. Quel étrange itinérant, hein? Benoît Labbe a été baptisé le lendemain de sa naissance. Il va être l'aîné de 15 frères et sœurs. Il sera même parrain du 15e. Alors, grâce à une terre de 30 hectares, à la mercerie de sa femme, M. Labbe a pu assurer une existence convenable à toute cette famille, toute cette ribambelle d'enfants, où il y aura plusieurs prêtres et des religieuses. Il a été quelque peu aidé aussi par des parents qui sont prêtres. C'est d'ailleurs l'oncle et le parrain de Benoît Labbe, l'abbé François-Joseph Labbe, curé d'Erin, accent aigu, Erin, Erin, comme l'Irlande, quand on dit Erin, c'est le nom authentique de l'Irlande, ça c'est curieux, hein? Et bien, c'est ce prêtre qui va veiller à sa première éducation, qui va être marqué par sa communion à 13 ans et demi, si je me souviens bien, qu'il a fait sa première communion et sa confirmation. Et c'était en 1761, voyez-vous, puis il est né en 1748, c'est ça, 13 ans et demi. Alors, dans la bibliothèque du presbytère, Benoît Labbe, adolescent, a lu et relu L'Imitation de Jésus-Christ. Donc, c'est quelqu'un qui est marqué par l'imitation de Jésus-Christ. Et combien d'entre nous, moi j'ai 70 ans bientôt, nous avons été marqués nous-mêmes par l'imitation de Jésus-Christ. Et moi, ma mère m'a donné ça quand j'avais 10 ans et on lisait ça tous les jours, 2-3 chapitres par jour. Que la jeunesse a changé aujourd'hui, hein? Et puis, il lisait aussi les 10 volumes, oui, 10 volumes des sermons d'un prêtre qu'on appelait le père aveugle. C'était un prêtre qui avait perdu la vue et qui va devenir son vrai maître spirituel, finalement. C'est le père Lejeune, de l'oratoire. Il était devenu aveugle très jeune. Pourtant, il avait été un des prédicateurs les plus célèbres de son temps. Il est mort en 1672, cet homme. Alors, il était conseiller de plusieurs évêques. Qu'il avait appelé d'ailleurs à réformer une abbaye. Puis il avait principalement parcouru le Limousin, la région de Limoges, là, en prêchant l'Évangile, dans toute sa pureté, disait-on. Au point que bien des gens n'ont pas hésité à qualifier ce père Lejeune de janséniste. Alors, les ouvrages, les 10 volumes, donc, que lisait Benoît Labbe, avec une teinte de jansénisme, disait-on, s'était soulevé à son procès de canonisation. Donc, le jeune Benoît va finir par en connaître les pages par cœur, telles que les sermons sur les commandements de Dieu, qui fourmillent de conseils de pénitence puis d'humilité. Mais son oncle, le curé, meurt le 13 septembre 1766. Alors, il retourne à Hamet, chez ses parents, avec son trésor, hein, les livres du père Lejeune. On se demande s'il va devenir prêtre. Sa piété exemplaire a l'air de vouloir qu'il devienne prêtre. Et son nouveau tuteur, qui est son grand-oncle, un autre prêtre, Jacques Vincent, vicaire à Conteville, se rend vite compte du très grand besoin de solitude de Benoît Labbe. Son jeune neveu ne semble pas destiné à être prêtre comme lui et à s'occuper du ministère paroissial, où il faut évidemment beaucoup d'entre-gens. Lui, plutôt solitaire, cet enfant. Alors, étant donné sa soif d'une spiritualité qu'on pourrait appeler une spiritualité du désert, on pressent que Benoît-Joseph Labbe ne peut se diriger que dans un monastère. Mais il est refusé presque partout. Oui, il fait un périple compliqué. Pour la seule année 1767, il va à la chartreuse de Longuenesse. C'est pas tellement loin de chez lui, c'est une petite chartreuse très sympathique qui est disparue, près de Saint-Omer. Puis il va à la chartreuse de Neuville, près de Montreuil-sur-Mer. Ça, c'est un peu au sud d'Amet. C'est pas loin, c'est une bonne marche, quoi. Puis il va un peu plus loin, à la trappe de Soligny, dans l'Orne, où il est refusé, parce qu'il n'a pas encore 24 ans. À Soligny, il y avait un régime particulier chez les trappistes-là, ils n'acceptaient personne en bas de 24 ans. Alors, un siècle donc avant Charles de Foucauld, dont je vous ai déjà parlé le 1er décembre, eh bien, Charles de Foucauld qui va connaître la même aventure, il faut bien se poser la question, est-ce que l'on a chez Benoît Labbe une espèce de, je dirais, d'instabilité caractérielle. qui pourrait inquiéter, d'autant plus que tout le monde n'est pas porté à être bien indulgent en ce qui concerne son accoutrement et ses manières plutôt bizarres. Étrange saint que lui, hein? Et vous allez voir quel saint merveilleux. Nous qui méprisons ces gens qu'on voit dans la rue parce qu'ils ont des accoutrements bizarres, hein? Ça serait peut-être le temps de commencer à décider au fond de notre cœur de changer d'attitude. On se demande d'ailleurs autour de lui d'où il tient ce regard. Un regard étonnamment transparent. D'une innocence qui fait presque peur parce que cette innocence chez lui nous fait voir comme dans un miroir la lourdeur de nos âmes, l'hypocrisie de nos sentiments, nos faiblesses. Notre absence de mise en pratique de ce que l'on dit, de ce que l'on lit, de ce que l'on entend. Il y a chez lui une finesse des traits du visage. Il était très beau gars, hein? Une belle tête, des traits magnifiques, qui étaient en contraste d'ailleurs avec ses origines paysannes. Puis il y avait chez lui cette humilité, une humilité insupportable de vérité. Devant n'importe quelle rebuffade, on pouvait l'envoyer promener de quelque façon que ce soit, son humilité était toujours plus grande que tout ce qu'il pouvait endurer. Tout jeune encore. D'ailleurs, il est mort à 35 ans. En 1769, il semble qu'on réussit à comprendre le mystère de sa vocation. Sur les conseils de l'évêque de Boulogne, il retourne à la Chartreuse de Neuville parce que l'évêque l'aime bien. Et 3 mois plus tard, il en sort. Il se rend à la trappe de Seffon. Seffon, ça c'est comme 7, S-E-P-T, puis Fon, F-O-N-S, mais ça se prononce Seffon. Il se rend là après avoir écrit à ses parents. Il est accueilli chez les trappistes le 30 octobre 1769. Il prend l'habit des novices sous le nom de frère Urbain. Le 11 novembre, mais une sorte de mélancolie mystique vient rompre. Cette apparente de stabilité s'allumine. Le jeune homme est transféré à l'infirmerie. Ses supérieurs doivent alors se rendre à l'évidence, et on lui dit « La Providence ne vous appelle pas à notre institut. Alors suivez les inspirations de la grâce. Dieu vous veut ailleurs. » Ça me rappelle quand on m'a demandé de quitter Saint-Benoît-du-Lac, et c'est exactement ce qu'on m'a dit. « Dieu vous veut ailleurs. » Et le 2 juillet 1770, Benoît s'éloigne de Seffon. Il va chercher l'ailleurs en direction de Rome. Alors Benoît Labre porte sa célèbre besace, où sont enfermés ses livres, les fameux livres du Père Lejeune, les 10 volumes. Ça ne doit pas être facile à porter ça, hein? Puis l'imitation de Jésus-Christ. Il a aussi les 4 volumes de son bréviaire en latin. Il est affublé d'une invraisemblable défroque, qui rappelle un peu les vêtements des franciscains, avec son chapelet. Et voici que ce jeune homme part sur les routes d'Italie, par le Piémont, au nord là, de l'Italie. Il a pris quand même le temps de rassurer ses parents par une lettre qui est datée de Chiari. C'est la seule étape certaine d'un périple absolument fantastique, hein. On parle de 30 000 kilomètres et ça va durer 7 ans. Les biographes de Benoît Labre ont tenté de retracer une géographie compliquée de tous les tours et détours. C'est intéressant à regarder d'ailleurs cette carte. Il y a les retours à travers la France, l'Italie, jusqu'à Naples, l'Espagne, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais on n'est pas trop sûr. Une tradition vu qu'il soit passé en 1770, avant de franchir les Alpes, par le petit village de Dardilly, près de Lyon. Il aurait reçu là l'hospitalité de qui? Du fermier Pierre Vianney, le grand-père du curé d'Ars. Bien, oui. Le curé d'Ars, c'est Jean-Baptiste Marie Vianney, je vous en ai déjà parlé, on a fait une émission là-dessus. Hein? Curé d'Ars, né en 1786, hein? 3 ans c'est-à-dire le grand-père qui est né en 1786. Et puis, il aimait dire... Non, j'ai pas de grand-père. Mon Dieu, qu'est-ce que je dis là? Enfin, de toute façon, on peut s'en tenir qu'à quelques étapes certaines de ce qu'il a fait. Dans la lettre qu'il a adressée à ses parents, il dit « Mon très cher père, ma très chère mère, vous aurez appris que je suis sorti de l'abbaye de Ceffonds. Et vous êtes sans doute en peine de savoir quelle route j'ai prise depuis et quel état de vie j'ai envie d'embrasser. Bien, c'est pour m'acquitter de mon devoir et vous tirer d'inquiétude que je vous écris cette présente. Et je vous dirai donc que je suis sorti de Ceffonds le 2 juillet. J'avais encore la fièvre quand j'ai quitté le monastère. Elle ne m'a abandonné que le 4e jour de marche et j'ai pris la route de Rome. » Il termine en disant « Je ne manque pas de prier Dieu pour vous tous les jours. Je vous demande pardon de toutes les peines que je puis vous avoir causées. Et je vous prie de m'accorder votre bénédiction, afin que Dieu bénisse mes desseins. C'est par l'ordre de sa providence que j'ai entrepris le voyage que je fais. Ayez bien soin surtout de votre salut et de l'éducation de mes frères et sœurs. Veillez bien sur leur conduite. Pensez aux flammes éternelles de l'enfer et au petit nombre des élus. Je suis bien content d'avoir entrepris le voyage que je fais. Fait en la ville de Kier, en Piémont, ce 31 août 1770, votre très affectionné fils, Benoît-Joseph Labre. Si je me souviens bien, ils n'auront plus d'autres lettres. Alors, les étapes certaines de son périple, son voyage, chez Notre-Dame des Ermites à Einsiedeln, en Suisse. Rome, Assise, Lorette, où il retourne 11 fois, oui, la maison de Lorette, hein, c'est une maison, on prétend qu'elle a été transportée par des anges sur les bords de l'Adriatique, là, à Lorette, en Italie, une maison où a grandi Jésus. On voit donc que les errances de Benoît Labre ont des repères, une constante préoccupation, c'est visiter et prier aux sanctuaires les plus célèbres. Le don Doyère, le père Doyère, bénédictin, a écrit, Pierre Doyère, un petit livre, qui n'est même pas 100 pages, « Benoît Labre, ermite pèlerin » aux éditions du Cerf, que je ne saurais trop vous recommander tant il est bien écrit. Or, don Doyère a une phrase superbe dans son livre, il dit « L'essentielle raison d'être de sa vie errante n'est-elle pas de demander à la route le lieu de sa solitude. » Une solitude, en somme, qui a fait de lui un original parmi les ermites. Les ermites nombreux, oui, très nombreux en cette fin du 18e siècle. Vous savez qu'il y a encore beaucoup d'ermites. On dit qu'il y en a 500 actuellement en France. Il y en a même au Québec. On en a un peu dispersé ici, à travers le territoire du Québec, des ermites chrétiens, catholiques. Alors, non seulement il refuse de gagner son pain, mais il ne le mendie même pas, Benoît Labre. Non seulement il se fait injurier, traité de fainéant et de vagabond, mais il s'en réjouit. Pour Dieu. Par amour pour Dieu. Et à ce régime, il fait figure d'un cadavre ambulant à un moment donné. Il lui faut, à un moment donné, abandonner les pèlerinages. Et ce sera à Rome qu'il va, pour ainsi dire, s'installer, tout en voyageant encore un petit peu, mais presque pas. C'est pas son genre, comme tant d'autres, de se laisser fasciner par la Rome pontificale et puis les honneurs. Il retourne toujours à Rome régulièrement. Puis il y connaît enfin une stabilité, qu'on peut dire relative. Entre 1778 et 1783, il est attiré par des lieux étranges. Un trou de muraille, où il se couche et dort, près du Quirinal. Il couche là en 1770. Il y a les ruines du Colisée aussi, où il se blottit sous une espèce de voûte effondrée. En 1772, dans cet endroit tout à fait mort, au milieu de Rome, il reste là. Dans l'arène du Colisée, depuis 1750, sur l'instigation d'un franciscain, le futur Saint-Léonard de Port-Maurice, avait lieu le vendredi et le dimanche l'exercice public du chemin de la croix. Et souvent seul, bien la nuit, il refaisait le parcours de cette, ce qu'on appelle la Via Dolorosa, le chemin de croix, quoi, la voie douloureuse. Il y récitait son rosaire aussi. Puis, il recommençait en un autre lieu tout aussi symbolique, la fameuse Scala Santa. C'est un escalier, n'est-ce pas, qu'on a prétendu être celui que le Christ avait monté au prétoire quand il a été traduit devant Pilate. Moi, personnellement, je n'en crois rien, mais vous pouvez y croire si vous voulez. Moi, je l'ai monté déjà à genoux, bon, en mémoire de Jésus-Christ que j'aime. Mais quant à croire, des détails qui n'ont pas de bon sens, là, bon, ben, il faut profiter de l'aspect spirituel d'une chose sans être obligé de croire aux faits exacts et précis. Hein? C'est ça, c'est comme ça qu'on peut accepter bien des choses et les vivre. C'est ce qui compte, c'est de les vivre un peu. Hein? Alors, il aimait gravir cet escalier à deux genoux en passant parfois plusieurs heures à cet exercice. Et puis, s'il revient en 1778 dans ce quartier, au pied de l'Esquilin, là, c'est qu'il y trouve une remarquable agglomération, si on peut dire, d'églises qui sont accessibles à ses dernières forces physiques. Hein. Faut pas oublier que dans ce temps-là, comme dans le temps de ma jeunesse, les églises étaient ouvertes toute la journée. Hein. Ce n'est que depuis quelques années qu'on ferme les églises, parce qu'il y a tellement de drogués qui ont besoin d'argent et qui vont voler les cierges et puis les lampes du sanctuaire et qui dévalisent les tabernacles, comme on vient de le voir d'ailleurs ici au Québec, hein, tabernacle enfoncé, etc. C'est terrible. Mais jusqu'à tout récemment, bien, c'était possible d'entrer comme lui le faisait dans les églises. Alors il allait à Sainte-Marie des Monts, qui garde son corps, mais aussi Saint-Martin, Sainte-Praxède, la belle église Sainte-Praxède, Sainte-Pudentienne. Alors peu importe décor et architecture, là, Benoît veut s'immerger dans la présence eucharistique, c'est ça qui l'attire. Il veut se cacher physiquement et surtout se cacher mystiquement dans l'adoration du Saint-Sacrement. C'est un grand mystique, un grand croyant, un ardent. Et le terme de son pèlerinage terrestre, le sens de sa vie d'ermite ambulant sont là. L'Eucharistie et l'Eucharistie. Il avait une grande dévotion, d'ailleurs, aux 40 heures. Hein, parce que souvent, dans ces églises, comme on faisait dans mon enfance, on expose le Saint-Sacrement pendant 40 heures. Et ça permet à tout le monde d'aller adorer pendant la nuit. On s'inscrivait à 4 heures du matin, puis on se rendait. Aucun danger, les femmes pouvaient sortir la nuit. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de danger, je me souviens. On laissait même nos portes débarrées à Outremont, on n'avait pas peur. Que le temps ont changé, que les temps ont changé. Et pour se bien préparer à cette adoration de l'Eucharistie, bien Benoît Labre pratique assidûment, évidemment, la confession. À commencer, évidemment, par la confession pascale. Or, de juin 1782, à avril 1783, eh bien, Benoît a, confesseur, le père Marconi, ou l'abbé Marconi, professeur à l'université grégorienne, qu'il aborde un matin dans l'église Saint-Ignace, la fameuse église des Jésuites. Et puis, à l'instar de ses prédécesseurs, ce prêtre, l'abbé Marconi, est saisi d'admiration. Et après la mort du saint, il se fait son premier biographe. Il a écrit d'ailleurs, cet abbé Marconi, en parlant de Benoît Labre, il commença à pleurer et je le vis sangloter à chaudes larmes. Il me dit quelques paroles qui me concernaient personnellement et qu'il m'avait déjà dites d'autres fois. N'ayant, comme d'habitude, trouvé dans ses aveux la moindre matière à confession, et voyant son âme tranquille sans même éprouver le moindre trouble depuis sa dernière confession, je compris qu'il était arrivé au zénith de cette belle lumière sous l'effet de l'Esprit-Saint. Un bon prêtre hein, qui s'est distingué ça sous un homme sale, pouilleux, habillé de 100 fois rien, qui n'a rien. Il y a des bons prêtres. Et ce prêtre ajoute, « Mais Dieu qui voulait qu'il restât caché jusqu'à son dernier soupir, ne me permit pas de voir que cette âme se disposait à prendre son essor vers le ciel. Cependant, j'en eus comme un indice, car après sa confession, lui ayant comme de coutume proposé de fixer le jour où il y reviendrait me voir, chose tout à fait contraire à son habitude, il ne s'en préoccupa nullement, parce qu'il fixait toujours ses rendez-vous. Alors, avec prudence, ce prêtre le délit des vœux nombreux devenus trop épuisants pour ce pauvre garçon. Il lui prescrit plus de régularité aux distributions de la soupe. Puis il l'oblige à constituer un petit pécule, mais Benoît ne peut en supporter l'idée qu'en employant l'argent au remplacement de son vieux bréviaire, qui est hors d'usage. Son corps aussi est hors d'usage. Et quasi impotent, les jambes enflées et couvertes d'ulcères, il traîne une vermine infâme, aussi inquiétante que sa toux, une toux de catarrhe. Il est admis à l'hospice évangélique que dirige l'abbé Mancini. Où les prêtres qui s'occupent d'hospice dans ce temps-là, de toutes sortes de choses, comme aujourd'hui. Pensez à ces prêtres qui s'occupent de la maison du Père. Pensez à ces sœurs qui s'occupent de toutes sortes d'œuvres à Montréal. C'est plein d'œuvres de charité tenues par des prêtres, même pour les sidéens et tout ça. Pourquoi pas? Alors, pour la nuit seulement, car le jour, ce prêtre continue, comme il peut, à visiter les différents endroits et à aider les fidèles. Et Benoît Labre, lui, ne cesse aussi de visiter les églises. Et sa dévotion à l'Eucharistie a aussi un caractère pénitentiel pour les péchés du monde, dit-il. Depuis sa jeunesse, Benoît pratique la prière des 40 heures devant Saint-Sacrement. Il meurt 8 jours avant que le tour en revienne dans sa paroisse Sainte-Marie-des-Monts, une autre séance de 40 heures. Car la fin se précipite dans cette semaine sainte de 1783. Benoît Labre, quel homme attachant, vous allez voir. Là, je vous raconte sa mort. Ce saint me touche beaucoup, car, comme vous savez, j'ai adopté quelqu'un qui était dans la rue comme ça, qui était mon fils pendant 23 ans, avant qu'il ne parte pour l'au-delà, il y a près de 2 ans. Et alors, la fin se précipite chez ce pauvre Benoît Labre. Durant la semaine sainte de 1783, rien ne peut empêcher ce pauvre Benoît de poursuivre sa quête d'adoration près d'un tabernacle. En dépit des vertiges et des évanouissements qui se répètent, il tombe sur les marches de Sainte-Marie-des-Monts. Et là, la foule s'empresse, discute de ce qu'il faut faire, jusqu'à l'arrivée du boucher de Zaccarelli. Benoît Labre, qui n'a pas voulu qu'on prévienne l'abbé Marconi, son confesseur, qui est occupé à prêcher d'ailleurs, mais il consent à être amené par Zaccarelli, qui le connaît, dans sa boutique. Et à peine couché, Benoît Labre tombe dans une sorte de léthargie, dont il ne sort vers midi que pour recevoir l'extrême-onction. Et en ce soir du mercredi saint, le 16 avril 1783, il meurt. Il meurt entouré des prières de ses amis du Colisée, où il habitait dans les ruines du Colisée avec d'autres, Il y a tellement de malheureux et de gens qui n'ont pas de toit. Il meurt entouré des itinérants comme lui, des pauvres, des clochards. Et alors, on entend un cri dans tout Rome immédiatement. È morto il santo. Le saint est mort. Et pourquoi ce cri qui se propage à la vitesse de l'éclair? Pourtant, dans une Rome qui en a vu bien d'autres, puis en l'honneur d'un inconnu, de 35 ans, qui déclenche un incroyable mouvement de foule. Ce n'est pas des blagues, ce que je vous raconte, c'est authentique. Il ne fait aucun doute que on n'a pas l'intention d'attendre la procédure officielle pour reprendre avec la bande d'enfants qui la première l'a lancé ce cri et qui s'amplifie dans Rome jusqu'à atteindre le Vatican. È morto il santo, le petit saint est mort. Et Francesco Zaccarelli, ce boucher, l'hôte charitable, et le témoin des derniers instants de Benoît Labre, a du mal à maîtriser l'événement. Le voilà déjà arbitre entre les recteurs des paroisses voisines qui se disputent les honneurs de l'enterrement. Bien oui. Et ce sera Sainte-Marie-des-Monts, finalement. Et on transporte le corps dans l'oratoire de l'église au milieu d'un cortège formé principalement par des membres de la confrérie de Notre-Dame-des-Neiges au soir du Jeudi Saint. Ce soir-là, dans l'oratoire, Francesco Zaccarelli, le boucher, fait exécuter le masque mortuaire de Benoît. C'est un très beau masque mortuaire, par un certain Tedeschi, tailleur de pierre et sculpteur de son métier. Dans la matinée du Vendredi Saint, l'abbé Marconi, ton confesseur, avait été averti de la mort de son pénitent. Il n'est pas possible d'exprimer l'émotion soulevée, dit-il, dans tout Rome, parmi cette foule qui croissait d'heure en heure. Des seigneurs de la plus haute condition voyaient leur carrosse arrêter pour attendre le moment de pouvoir avancer et entrer. C'est ce qu'il a écrit. Alors impossible de fermer l'église, sauf très tard dans la nuit. Un chirurgien procède aux examens cliniques sur le cadavre pour savoir s'il présente quelques signes de corruption. Et écoutez bien ça, c'est la vérité, ce ne sont pas des blagues, ce sont des documents authentiques. Bien, ce chirurgien constate que le défunt a un aspect naturel, comme s'il venait d'expirer. Le corps voyait leur carrosse arrêter pour attendre le moment de pouvoir avancer et entrer. C'est ce qu'il a écrit. Alors, impossible de fermer l'église, sauf très tard dans la nuit. Un chirurgien procède aux examens cliniques sur le cadavre pour savoir s'il présente quelques signes de corruption. Et écoutez bien ça, c'est la vérité, ce ne sont pas des blagues, ce sont des documents authentiques. Bien, ce chirurgien constate que le défunt a un aspect naturel, comme s'il venait d'expirer. Le corps n'exhale aucune mauvaise odeur. Bien que le décès remonte déjà à 4 jours. Souvenez-vous, dans l'Évangile, quand on parle du cadavre de quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, Lazare, on dit que ça sent très mauvais. Et lui, rien. Toutes ses parties sont souples et flexibles, dit le chirurgien. Au moment de déposer dans un cercueil de bois, la foule, qui a déjà arraché les cheveux et la barbe du bienheureux par dévotion, réclame à grands cris qu'on lui montre une fois encore le visage, si doux et si bon, et le corps du défunt. Il faut bien s'exécuter. Puis le cercueil est fermé et descendu sous un dallage de briques semblable à celui du pavé de l'église. Il est très rare, de voir dans l'histoire de la sainteté des temps modernes une popularité instantanée qui enfièvre non seulement Rome, mais l'Europe entière. Oui, cette Europe des Lumières, cette Europe du 18e siècle, pleine de doutes. Car de Rome, la nouvelle de la mort du bienheureux Benoît Labre se répand à la vitesse de l'éclair. En France, bien sûr, mais aussi en Espagne, en Suisse, en Allemagne. Fait presque unique, une biographie paraît aussitôt sous la signature du confesseur l'abbé Marconi. Raguaglio della vita del servo di Dio Benedetto Giuseppe Labre. Avec privilège pontifical de Pie VI, du 21 juin 1783, soit 2 mois et 5 jours après sa mort. Simultanément est publié un abrégé de la vie du serviteur de Dieu par l'abbé Allegiani, avocat de la cause de béatification. Alors on dérobe dans les églises de Rome les images de la sainte face que Benoît avait baisée. On taillade les confessionnaux où il s'est agenouillé. Il y a une pareille euphorie d'une dévotion populaire créée tout aussi spontanément. Une immense iconographie du saint dans toutes les postures, par la peinture, la gravure, la lithographie, la sculpture, le modelage. De son vivant, d'ailleurs, c'est une chose assez étonnante, Benoît Labre a posé pour un peintre lyonnais du nom d'André Bley, B-L-E-Y, qui séjournait à Rome. Et cet artiste français avait besoin d'une tête de Christ pour son tableau, La vocation de Saint-Pierre. On dit il vint poser comme une statue, et à la fin de la séance, il ne voulut pas d'argent. Eh bien, ce portrait, recopié à des milliers d'exemplaires, y compris par des graveurs italiens, avait été envoyé à Madame Louise de France. Vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé, Madame Louise de France, fille de Louis XV et religieuse du Carmel de Saint-Denis. C'était l'émission, si je me souviens bien, du 20 décembre dernier, à Rencontre spirituelle. Alors, en dépit de la piètre qualité de ce portrait, cette peinture va inspirer le graveur parisien Voissart. Mais surtout, le portrait a une puissance de guérison unique, magique, étrange. Le journal janséniste Les Nouvelles ecclésiastiques du 22 septembre 1689 relate la guérison miraculeuse d'une religieuse bénédictine de Conflans. Dans les recueils de miracles opérés par l'intercession du vénérable Benoît-Joseph Labre, publié entre 1784, c'est l'année suivante de sa mort, ça, et 1789, on trouve 53 relations de guérison, dont 19 qui concernent des religieuses appartenant à une communauté vouée spécialement à la dévotion eucharistique. Et ces guérisons, bien l'abbé Marconi assure, le 23 septembre 1783, donc 5 mois après sa mort, ben il assure à Jean-Baptiste Labre, le père du saint, oui, Jean-Baptiste Labre, le père, ouvrez les guillemets, qu'on en compte à présent 160 000. Et il ajoute au père de Benoît Labre, plus de 80 000 reliques ont déjà été distribuées. C'est étrange. Alors, aussitôt averti, Monseigneur de Partz de Précy, évêque de Boulogne, a réagi. D'une part, il communique toutes les précisions biographiques sur son illustre diocésain au cardinal Arquinto, préfet de la Congrégation des Rites. Et d'autre part, dès le mois de mai 1783, donc un mois après la mort de Benoît Labre, il convoque une commission informative à l'évêché. Et cette commission va siéger tout l'été pour entendre les membres de la famille Labre et les témoins de la jeunesse de Benoît. La noblesse de Boulogne a beau s'offusquer qu'on magnifie ainsi un pouilleux, bien, on aurait pu trouver mieux, n'est-ce pas, pour représenter l'Artois, disent-ils. Les travaux vont bon train quand même. C'est de Rome que viennent les fausses notes, dans le concert de gloire qui entoure déjà Benoît Labre. Oui, c'est un prêtre, le père Piccilli, étrange personnage, consulteur de la Congrégation des Rites. Il s'était pris d'un zèle excessif pour les vertus de Labre, de Benoît Labre. Alors il comptait bien être le postulateur, lui, de la cause. Il n'a pas caché son dépit quand il s'est vu supplanté par le père Palma, la jalousie. D'où son coup de théâtre à l'ouverture du procès le 6 juin 1783. Et puis, cité d'office, il se réfère à toutes sortes de choses, et on s'aperçoit qu'il est devenu un avocat du diable, comme on dit, hargneux. Hargneux. Et il commence à démolir avec fougue les pièces du procès, qui consigne notamment les 168 miracles retenus en faveur du candidat Benoît Labre. Il n'hésite pas à faire campagne auprès d'un certain nombre de cardinaux, mais dans ce père Piccilli était au moins sûr d'avoir l'oreille du cardinal de Bernis, l'ambassadeur de France à Rome. Étrange, un cardinal qui était ambassadeur de France à Rome. Mais c'était comme ça dans ce temps-là. Et cet ambassadeur se croit fin diplomate en avertissant le 30 avril 1783, donc 15 jours après la mort, il avertit Vergennes, ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, et il lui dit « Méfiez-vous, méfiez-vous. Cette sainteté subite de Labre est un coup monté des Jésuites. » Alors le ministre a suffisamment œuvré pour la suppression des Jésuites. Qu'on en reste donc là. Et qu'on ne fasse pas du cas Labre une nouvelle affaire d'État. Alors, d'où la prudence courtisane de sa lettre du temps de Noël, 1783. Puis, au-delà de ses rancunes personnelles, qu'est-ce qu'on peut reprocher au juste à Benoît Labre? Ses poux? L'avocat de la cause, l'abbé Aligiani, aborde courageusement cette question délicate dans sa biographie, la question des poux. L'abjection sociale pratiquée par Benoît Labre n'est certainement pas une recherche de soi par des procédés les plus douteux. Alors c'est quoi cet état dans lequel il a tenu à vivre? C'est une glorification de la croix, ignominieuse pour confondre la sagesse du monde. Benoît Labbe suit en cela l'exemple de saint Hilarion, de saint Thomas de Canterbury, qui portait un cilice couvert de vermine, et de tous ces saints et saintes. Et je cite le texte, qui est épouvantable, mais c'est le texte, et je m'en excuse. Ces saints et saintes, léchant les plaies des ulcères au point d'en sucer et en avaler le pus, quoique les oreilles délicates puissent en être offensées, et quelques mépris qu'on témoigne pour ces sortes de pénitences. Eh bien, ces sortes de pénitences ont existé, et j'espère qu'elles n'existent plus, personnellement. C'est une pénitence invraisemblable, contraire à tout sens commun, même sur le plan spirituel, mais il faut, faut comprendre que dans ce temps, les gens n'étaient pas comme aujourd'hui. Les temps changent, et par rapport à ça, je crois, se sont améliorés. Pas sur bien d'autres choses. Les prophéties de Benoît Labbe étaient surprenantes. Il a fait des prophéties politiques. Il y a eu un silence prudent qui a toujours entouré cet aspect de l'action de Benoît Labbe. Il est certain, pourtant, qu'il a critiqué la corruption des mœurs des grandes villes. Il a prédit à Rome le sort de Messine et le tremblement de terre de Calabre, effectivement survenu en février 1783. D'où, évidemment, les deux vers suivants qui ont été colportés dans les salons romains. On disait « La terre engloutissant Messine et la Calabre, Dieu nous préservera par le bienheureux Labbe. » Il avait prédit ces tremblements de terre, c'est assez curieux. En tout cas, reste un terrain plutôt mouvant, tout ça. Benoît Labbe ne serait qu'un épouvantable janséniste, ou si on l'accusait de ça. C'est le père Piccilli qui prétend ça, appuyé par le cardinal de Bernis, l'ambassadeur de France, qui n'est pas une approximation près. Les preuves, disent-ils, c'est sa formation spirituelle auprès du père Lejeune, avec ses 10 livres, là, dont il n'a cesse de traîner les sermons dans sa besace au cours de son itinérance interminable, et surtout le passage fort compromettant de sa lettre à sa famille, ou plus exactement, le même passage repris textuellement dans ces deux lettres de 1769 et de 1770, je vous l'ai lu tout à l'heure, exprès, « Ayez soin de votre salut, lisez et pratiquez ce qu'enseigne le Père aveugle. C'est le livre qui enseigne le chemin du ciel, et sans faire ce qu'il dit, il n'y a point de salut à espérer. Méditez les peines effroyables de l'enfer qu'on endure une éternité tout entière pour un seul péché mortel qu'on commet si aisément. Efforcez-vous d'être du petit nombre des élus. » C'est ce qu'il avait écrit. Alors, on dit à vue flagrant s'il en est de son attachement à l'hérésie de la prédestination, l'hérésie des jansénistes. Confirmé, affirme de vertueux détracteurs, par sa fréquentation fort tiède des sacrements, disait-on. Fort tiède des sacrements? Voyons donc, jamais de la vie. Il faudra attendre le 20 mai 1860 pour la béatification, puis le 8 décembre 1881, donc plus d'un an, pour la canonisation. Plus d'un siècle. À Arras, devant une foule immense et un parterre d'évêques, Monseigneur Pie, évêque de Poitiers, s'est exclamé en 1860, « Arras, Arras, quel grand spectacle tu nous donnes à cette heure. Nous sommes là, vous et moi, mais quelques 100 000 hommes avec nous. 100 000 hommes avec nous pour attester la canonisation populaire de Benoît Labbe. Le vagabond de Dieu a enfin fait l'unanimité des cœurs, mais pas tout à fait. Dans les années 1880, les anticléricaux sont virulents. Certains journaux français se déchaînent à l'annonce de la canonisation de ce saint mort en état de crasse, écrit-on dans le Progrès du Nord. Et sur le mode politique pour la béatification, puis le 8 décembre 1881, donc, plus d'un an, pour la canonisation. Plus d'un siècle. À Arras, devant une foule immense et un parterre d'évêques, Monseigneur Pie, évêque de Poitiers, s'est exclamé en 1860, « Arras, Arras, quel grand spectacle tu nous donnes à cette heure. Nous sommes là, vous et moi, mais quelques 100 000 hommes avec nous. 100 000 hommes avec nous pour attester la canonisation populaire de Benoît Labre. Le vagabond de Dieu a enfin fait l'unanimité des cœurs, mais pas tout à fait. Dans les années 1880, les anticléricaux sont virulents. Certains journaux français se déchaînent à l'annonce de la canonisation de ce saint mort en état de crasse, écrit-on dans le Progrès du Nord. Et sur le mode politique, mais la polémique atteint son point culminant au Sénat, en France, oui, le 2 juin 1881. Il parle de la sécularisation de l'enseignement moral, comme on fait ici au Québec. Alors, parlant de ça, M. Corbon proteste contre l'Église catholique qui canonise la fainéantise. Il dit ceci. Vous prendrez la liste des saints en ayant soin surtout d'y ajouter le dernier saint, Labre. Puis vous irez devant le palais de l'industrie. Vous en ferez le tour et vous verrez nos saints à nous. Vous n'y verrez pas figurer un seul homme pour sa piété, mais pour son travail. Je pense que le sénateur Corbon, c'est évident, avait exclu les créateurs littéraires, les journalistes, les écrivains, les poètes, qui vont, eux, magnifier par leur talent la gloire de ce vagabond de Dieu. Ce n'est pas un hasard si beaucoup appartiennent à la génération des convertis, eux qui assurent le renouveau spirituel de ce siècle industriel. Pensons à Barbé de Révillé, un des premiers, qui fustige la trop sirupeuse vie admirable du bienheureux mendiant et pèlerin Benoît-Joseph Labre par Léon Aubineau, rédacteur du journal Univers. Il dit « De toute l'indignation de sa foi de mondain converti, cet écrivain tempête, il dit, une vie pareille, vue de dehors, ne se raconte pas. L'incomparable beauté de la vie de Saint-Joseph-Benoît Labre en est tout intérieur, c'est ce que disait Barbé de Révillé. Paul Verlaine, le fameux Verlaine, après sa conversion du 25 octobre 1873, va aller plusieurs fois en pèlerinage à Hamet, dans la maison natale de Benoît Labre, et ses deux recueils « Sagesse 1880 » et « Amour 1888 » en sont tout imprégnés. D'ailleurs, au jour de la canonisation, Paul Verlaine dédie un de ses meilleurs poèmes à Saint-Benoît Labre, la seule gloire religieuse française du 18e siècle. Pendant l'été 1877, Paul Verlaine accueille chez sa mère à Arras le jeune poète, merveilleux poète Germain Nouveau. Tous deux se rendent à Hamet pour prier. Et Paul Verlaine, d'ailleurs, a écrit pour la canonisation de Benoît Labre les vers suivants. « Comme l'Église est bonne en ce siècle de haine, d'orgueil et d'avarice et de tous les péchés, d'exalter au jour le caché des cachés, le doux entre les doux à l'ignorance humaine. » Alors, Benoît Labre est un signe de contradiction pour ses contemporains du siècle de l'ivresse. Ce siècle de l'ivresse qu'a été le 18e siècle. Et il le sera aussi un signe de contradiction pour le 19e siècle et le siècle de l'argent. On pense que quelqu'un qui ne gagne pas son argent est un rien du tout. Il faut voir l'âme et l'amour. C'est l'intuition, d'ailleurs, des frères des écoles chrétiennes qui décident d'entourer l'idée de Benoît Labre dans les années 1880. Et ces frères des écoles chrétiennes veulent grouper sous la protection de Benoît Labre leurs anciens élèves pour en faire une espèce d'élite. On les appelle les Saints Labres. Et parmi les élèves des frères des écoles chrétiennes, comme ça, les Saints Labres, vont sortir au 20e siècle les dirigeants du syndicalisme chrétien en France. Et voilà que c'est une une revanche absolument merveilleuse et étrange de ce saint, longtemps classé comme l'antitype social. Et le message de son village natal, le message d'Ahmet, développait une nouvelle dimension, celle du service effectif des opprimés et des plus démunis. Ça va entraîner des tas de gens à s'occuper des opprimés et des plus démunis. Un peu comme aujourd'hui, il y a comme un courant dans notre société vers les opprimés et les démunis. Avec une extension dans ce temps-là, au début du 20e siècle, une extension d'initiatives extraordinaires qui se sont répandues partout. C'est venu même s'installer ici au Québec. Oui. Et puis, ça fait énormément de bien auprès des clochards et les miséreux. Le Québec s'est fait un honneur de nommer, d'ailleurs, un de nos villages ici, Benoît Labre. Saint-Joseph Benoît Labre. Je lisais il y a quelques jours un texte de l'abbé Jules Beaulac, intitulé « Je suis mal habillé ». Seigneur, Seigneur, je n'ai pas un sou, je n'ai rien à me mettre sur le dos. J'ai fini par aller voir des amis qui m'ont donné une vieille chemise, trop grande pour moi, et des pantalons encore plus grands, qui me vont très mal. J'ai l'air d'un clown, d'un bouffon, quand je marche devant le monde. Les gens bien se retournent pour me regarder. Ils ne parlent pas. Mais leurs yeux parlent plus que tout ce qu'ils pourraient dire. Et moi, bien, je suis gêné. Et mon orgueil en prend un coup. Je suis entré à l'église, attriqué comme je l'étais. Les bonnes dames qui étaient là... Et le curé qui disait la messe m'ont regardé avec un œil surpris. A-t-on idée d'entrer dans la maison de Dieu habillé comme cela, hein? Mais Seigneur, je n'ai rien d'autre. Je ne suis tout de même pas pour me promener tout nu. Oh, mon portefeuille est vide. Ah, d'ailleurs, je n'en ai même pas. Je ne peux m'acheter de vêtements. Alors, bien, je suis obligé de prendre ce qu'on me donne. Seigneur, tu connais mon cœur. Donne-moi d'aimer ceux qui me jugent et qui me regardent de travers. Et, Seigneur, si tu veux, mets sur ma route un bon Samaritain qui puisse m'habiller comme du monde. Amen. Je le lis en mémoire de mon fils, que j'aime encore tellement. La messe du 16 avril, à la communion, nous permet de dire « Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. » Et oui. Eh oui, ils connaissent la souffrance, ces enfants-là qui sont dans la rue. Ils sont abandonnés par tous. Personne n'en veut. Personne n'en veut. Quelle tristesse. Si vous voulez lire des ouvrages sur Saint-Joseph Benoît Labre, je vous recommande « Le chemin des béatitudes, une vie de Saint-Benoît Labre », imprimé sur forme de manuscrit, par Pascal Pingot, qui a fondé le Pain de vie. Je l'avais invité et interviewé à la télévision. Un saint, Pascal Pingot. Ce petit ouvrage est publié chez Fayard. D'autre part, l'ouvrage de Don Pierre Doyère, Benoît Labre, Ermite Pèlerin, publié au Cerf aussi. Une longue étude de Benoît Labre, que je ne vous recommande pas tellement, publié au Cerf, c'est un gros volume, publié par le Centre d'histoire religieuse de Lille, C'est extrêmement savant, mais pour ceux qui voudraient aborder l'arbre comme ça, et si vous avez dans votre bibliothèque la collection des revues Missy, le numéro du mois de mai 1983 sur Benoît Labre est un numéro exceptionnel. Il y a beaucoup d'autres livres sur Benoît Labre. Je ne saurais tous vous les recommander.